Ésaïe, chapitre 66, versets 1 et 2 et 5. Ainsi a dit l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Quel lieu sera celui de mon repos? Car toutes ces choses ma main les a faites et toutes ces choses existent par elles, dit l'Éternel, et voici à qui je regarde, à celui qui est humble, qui a l'esprit abattu et qui tremble à ma parole. Verset 5. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui tremblez à sa parole, vos frères qui vous haïssent et qui vous rejettent à cause de mon nom ont dit que l'Éternel montre sa gloire. Il sera donc vu à votre joie, mais eux seront honteux. Bonjour à tous, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse et bon sabbat à vous. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre série d'études. Ça doit être les études les plus importantes que j'ai jamais faites de ma vie. Et il fallait pour cela que je sois dans une certaine condition dans ma marche avec le Seigneur qui fasse que je ne puisse en rien me glorifier des choses que je suis en train de vous partager. Nous avons parlé de la moisson, nous avons parlé de la pluie de l'arrière-saison, nous sommes en train de parler du criblage. Nous avons exploré le sujet du criblage dans sa face de principe, dans ce qu'enseigne la parole de Dieu au sujet du criblage, ce que le criblage est, ce à quoi nous pourrions nous attendre, nous pouvons nous attendre d'un criblage parmi le peuple de Dieu, et notamment, tout précisément, parmi le peuple de Dieu à partir de 1798, qui est le début du temps de la fin, et 1844, le temps qui est annoncé dans Daniel chapitre 8, je crois, c'est notamment le verset 14 que nous connaissons bien, et ensuite, deux ou trois versets après, où l'ange parle, l'ange Gabriel parle à Daniel et lui dit que ces choses de cette vision sont pour le temps de la fin. Et dans Daniel chapitre 12, nous savons que ces choses qui étaient annoncées devraient être scellées jusqu'au temps de la fin. Le livre de Daniel est un livre qui serait révélé au temps de la fin, ce qui est d'ailleurs marqué dans Apocalypse chapitre 10. Lorsqu'il n'y aurait plus de temps, que nous sommes confirmés dans notre croyance, notre conviction, que la prophétie des 2300 jours et matins est bel et bien la dernière période prophétique avant le retour de Jésus-Christ. Et donc, dans notre dernière étude, nous étions à la deuxième partie des développements historiques du criblage. Nous avons vu, frères et sœurs, j'espère que vous avez suivi, comment le criblage s'est développé, s'est manifesté au sein du peuple de Dieu, du mouvement des trois anges d'Apocalypse chapitre 14, des adventistes du septième jour. Nous avons vu qu'à partir de 1888, il y a commencé à avoir cette scission, ces divisions parmi le peuple de Dieu. Deux parties se formeront, comme l'esprit de prophétie nous le disait et l'annonçait, pour ce temps-là, non pas pour notre 21e siècle, de partie se formait alors une nouvelle vie descendait du ciel à partir du début de ce grand cri de l'ange qui doit éclairer toute la terre entière de sa gloire. Je suis en train de reprendre très brièvement ces paroles de l'esprit de prophétie sur lesquelles nous avons basé toute notre compréhension de ce sujet. Vous avez vu que nous sommes passés d'une déclaration à une autre de telle manière que nul ne peut dire que ces choses sont enseignées simplement par Victor Biro ou peut-être même John Till parce que cela n'a aucun fondement logique si quelqu'un pense qu'il peut justement déclarer de telles choses. En effet, nous sommes passés d'un texte de la parole de Dieu, de la Bible, à un texte de l'esprit de prophétie, et de l'un à l'autre, et nous avons cheminé jusqu'ici dans ces révélations incontestables de ce que Dieu a dit, en rapport avec les événements tels qu'ils se sont produits, et tels qu'ils ont été affirmés et élargis et révélés par l'esprit de prophétie. Et toutes ces choses, bien entendu, peuvent tout à fait être vérifiées si vous ne faisiez qu'une étude historique de ces faits. Mais l'esprit de prophétie nous a donné ces choses-là de telle manière que nous pouvons les présenter de manière concise, sans avoir à aller explorer tous les rappels d'historiens séculiers ou adventistes. Et j'aimerais attirer votre attention vers, ou plutôt réattirer, attirer de nouveau notre attention vers cette citation par laquelle nous avions terminé la dernière fois. Et cette fois-ci, nous allons commencer par cette citation pour nous relancer pour rafraîchir notre mémoire au sujet de cette crise qui était annoncée, cette condition de la majorité qui n'était pas préparée. Ce que nous avions vu la dernière fois. Une majorité qui n'était pas préparée et seul un petit nombre de personnes au sein de la dénomination étaient prêts à affronter cette crise qui était annoncée pour un temps très proche. Elle disait « The crisis is upon us » ou en français on dit souvent « est imminente ». Je le lis dans le livre « Instruction pour un service chrétien effectif » à la page 51 et au paragraphe 2. « C'est une déclaration solennelle que je fais à l'Église », disait-elle en 1893. « Il n'y a pas une personne sur 20 de celles dont les noms sont inscrits sur les registres de l'Église qui soit prête à terminer son histoire terrestre. » Pas une personne sur 20. Nous avions vu les effectifs, c'était à peu près de 40 000. Pas une personne sur 20, cela équivaut à peu près à 2000 personnes. À peu près. Il n'y en a pas une personne qui soit prête à terminer son histoire terrestre, une personne sur 20, et qui ne se trouverait pas tout autant sans Dieu et sans espérance dans le monde que le pécheur ordinaire. C'était la condition de cette majorité. Comme le pécheur ordinaire, sans espérance de la vie éternelle. Mais pourtant, il faisait une profession. Je le lis. Ils font profession de servir Dieu, oui, mais ils servent plus ardemment Mammon. Ce demi-service pour l'un et pour l'autre est un reniement constant de Christ plutôt qu'une confession de lui. Ils vivent comme des pécheurs et prétendent être des chrétiens. Ceux qui prétendent être chrétiens et qui veulent confesser Christ devraient sortir du milieu d'eux, ne pas toucher à ce qui est impur et se séparer. Ce que nous avions vu la dernière fois, une rupture était annoncée, une sortie était annoncée comme nous l'avions lu dans Événements des derniers jours, page 42, paragraphe 5. Et qui nous est présenté ici d'une manière souple, on va dire, d'une manière où c'est plus ou moins sous-entendu, mais c'est quand même très très fortement déclaré, n'est-ce pas? Devrait sortir du milieu d'eux, du milieu de qui? Du milieu de ceux-là même au sujet desquels elle a dit qu'ils ne sont pas prêts de terminer leur histoire terrestre, non pas des pécheurs ordinaires, des mondains. Non pas même des églises déchues, mais de ceux qui faisaient partie de l'église adventiste du septième jour, en son temps, du temps d'Ellen White. Elle disait, ceux qui veulent être chrétiens pour de vrai, et qui veulent confesser Christ pour de vrai, devraient sortir du milieu d'eux et ne pas toucher à ce qui est impur, et se séparer. Il y avait un appel à une séparation. C'est inéluctable, frères et sœurs. C'est marqué noir sur blanc. Je ne peux même pas y échapper. Si je voulais y échapper, je ne pourrais pas. Et nous avions lu dans l'autre citation que Ellen White disait « Nous espérions que nous n'aurions pas besoin d'une autre rupture. Nous espérions, disait-elle. » Elle le disait je ne sais plus quand est-ce que la déclaration a été faite. Bref, c'était au tournant du 19e vers le 20e siècle. Voilà. Nous espérions que nous n'aurions pas besoin d'une autre rupture. Et ajoutant à cela, j'aimerais que nous lisions une autre déclaration, celle que nous n'avions pas lue la dernière fois. Où il est écrit. Ou plutôt, d'abord, j'aimerais que nous lisions la vision de la gare ferroviaire que nous avions lue la dernière fois, de cet événement qui a été relaté par Will Ross et confirmé par Elmer M. Johnson et qui a eu lieu à peu près en 1908. Et voilà les dires de Will Ross tels qu'il les a relatés. Sir White nous a dit, alors que nous nous tenions tous les trois sur le quai de la gare ferroviaire, qu'une terrible tempête de persécution venait comme un grand vent qui renversait tout objet se tenant debout. Pas un seul adventiste du septième jour ne pouvait être vu, comme les disciples, ils avaient abandonné Christ et s'étaient enfuis. Tous ceux qui avaient cherché des postes ne furent plus jamais revus. Après la tempête, il y eut un calme. Puis les adventistes se levèrent comme un grand troupeau de brebis, mais ils étaient sans berger. Ils s'unirent tous avec ferveur dans la prière pour demander l'aide et la sagesse, et le Seigneur leur répondit en les aidant à choisir des dirigeants parmi eux, qui n'avaient jamais recherché de poste auparavant. Ils prièrent instamment pour le Saint-Esprit, lequel fut déversé sur eux, les rendant entièrement prêts pour le service. Ils s'en allèrent alors, beaux comme la lune, purs comme le soleil, redoutables comme une armée sous ses bannières, pour donner ce message au monde. « J'étais stupéfait, » disait Will Ross, « et je demandais si cela s'appliquait à Loma Linda, car nous regardions dans cette direction. Sir White répondit à ma question en disant que cela s'appliquait à toute la dénomination mondiale. Cela me frappa tellement que je ne posais plus d'autres questions. » Il ne posa plus d'autres questions. Will Ross s'arrêta et c'était tellement choquant, cette déclaration de Sir White, qu'il ne posa plus de questions. Il n'était pas disposé, il ne pouvait pas avaler ce que cela voulait vraiment dire, comme nous allons le voir aujourd'hui. Qu'est-ce qui était annoncé dans cette vision? Une terrible tempête de persécution venait comme un grand vent qui renverserait tout objet se tenant debout. Un grand vent, une terrible tempête de persécution était sur le point d'arriver. Pas un seul adventiste du septième jour ne pouvait être vu. Tous comme les disciples, ils avaient abandonné Christ et s'étaient enfuis. Voilà ce que la vision présentait. Et maintenant, nous voulons voir les événements qui ont confirmé cette prédiction. Et donc, j'attire votre attention, frère Saint, je vous demande d'être très attentif pour contempler et examiner, comme les Béréens, si ces choses sont ainsi. Si ces choses sont ainsi. Et si vous savez ces choses, écoutez aussi. Parce qu'il se peut que vous ne les aviez eues que dans la tête et pas dans le cœur. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est à la fois l'avoir dans la tête et dans le cœur et pouvoir épouser les choses que ces personnes au sujet desquelles nous allons lire ont épousées et pour lesquelles ils ont souffert. Tendez bien l'oreille. Et maintenant, je lis une autre déclaration qui se trouve dans Testimonies to Ministers and Gospel Workers, ou autrement dit, Témoignages aux ministres et aux ouvriers bibliques. À la page 514, paragraphe 3, et ensuite la page 515, paragraphe 1. Et ça, c'était une adresse qui a été faite par Sir White en 1913 à la conférence générale de cette date-là. Donc, en 1913, c'est une date très très importante, parce que juste après, un an après, se passaient des événements renversants, comme nous allons le voir juste maintenant. Écoutez bien. Des hommes de compréhension claire, disait-elle en 1913, des hommes de compréhension claire sont maintenant requis. Le témoignage de Jésus est en train de parler. Écoutez, frères et sœurs, écoutez. Des hommes de compréhension claire sont maintenant requis. Le Seigneur était en train de dire, maintenant il y a absolument besoin que vous ayez cette préparation, parce qu'il y a quelque chose qui va venir. Des hommes de compréhension claire sont maintenant requis. Dieu appelle ceux qui sont prêts à être contrôlés par le Saint-Esprit, à mener dans un travail de réforme profonde. Profonde. Voilà ce à quoi le Seigneur appelait. Ceux qui étaient prêts à être contrôlés par le Saint-Esprit. Vous vous souvenez que les opposants, les dirigeants qui s'opposaient au message de 1888, ne voulaient pas être contrôlés par l'Esprit, mais voulaient contrôler toutes les branches de la dénomination selon leurs propres idées et façonner l'œuvre à leur propre image et selon leur propre ressemblance. Et donc Dieu disait, eux ne veulent pas, mais j'appelle à tous ceux qui veulent bien être contrôlés par l'Esprit de Dieu à mener dans un travail de réforme profonde. Profonde, pas superficielle, pas temporaire. Un travail de réforme profonde. Voilà à quoi Dieu appelait. Que dit-elle de plus? Je vois une crise devant nous. Et le Seigneur appelle ses ouvriers à rentrer dans les rangs. Rentrer, à arrêter d'être comme ci, comme ça. Un peu fidèle, un peu infidèle. Un peu servir Dieu, un peu servir maman. Un peu être chrétien, un peu être mondain. Le Seigneur appelait ses ouvriers à rentrer dans les rangs, à être strictement, uniquement, complètement pour le Seigneur Jésus-Christ et sa vérité, et être fidèle aux principes originaux de la foi du troisième ange. Voilà à quoi le Seigneur appelait. Écoutez, je suis en train de vous ajouter des choses qui sont écrites parce que c'est exactement le sens qui est ici donné par l'esprit de prophétie, comme nous l'avons vu, en harmonie avec toutes les autres déclarations que nous avons explorées. Vous voyez maintenant la valeur de toutes ces choses que nous avons explorées dans le passé. Combien maintenant ces choses sont accumulées pour que nous ayons une compréhension claire du paysage panoramique de la parole de Dieu et de la vérité vis-à-vis de ces événements extrêmement important et fatidique dans les développements historiques du criblage parmi le peuple de Dieu. « Je vois une crise devant nous, » disait-elle en 1913. Et le Seigneur appelle ses ouvriers à rentrer dans les rangs comme une armée bien disciplinée. Chaque âme devrait désormais se tenir dans une position de consécration à Dieu plus profonde et plus véritable que durant les années passées. Un travail de réforme profonde, voilà à quoi le Seigneur appelait, et à se tenir dans une position de consécration à Dieu plus profonde et plus véritable que durant les années passées. Je lis encore. J'ai été profondément impacté par les scènes qui se sont dernièrement déroulées devant moi dans la nuit. Il semblait y avoir un grand mouvement, une grande œuvre de réveil qui progressait en de nombreux endroits. Nos gens rentraient dans les rangs et répondaient à l'appel de Dieu. Ouh, une grande œuvre de réveil. Mais rappelez-vous, parce que nous avons lu dans « Instruction pour un service chrétien effectif » qui est écrit dans cette citation de page 51, paragraphe 2, qui est écrit en 1893, qu'à l'époque, il n'y avait pas une personne sur 20 des effectifs et des membres de l'Église qui était prête à terminer son histoire sur la terre. Et ici, elle disait en 1913 qu'il y avait, elle voyait dans les visions de la nuit, les scènes qui se sont déroulées devant elle dans la nuit, ces visions, un grand mouvement, une grande œuvre de réveil. Mais la majorité n'était pas prête, pas disposée à être contrôlée par l'esprit. Donc quelle œuvre de réveil, quel pourcentage, quelle proportion mènerait cette œuvre de réveil. Ça ne pouvait être qu'une proportion infime comparée à la grande majorité. Voyez maintenant l'histoire confirmer les dires du témoignage de Jésus. Je le lis dans cette revue qui s'appelle le Kölnisch Zeitung du 21 septembre 1915. C'était le journal de Cologne en Allemagne. En 1913, elle avait fait cet appel. Et en 1914, la Première Guerre mondiale a éclaté. Et dans le Kölnisch Zeitung du 21 septembre 1915, il était écrit ceci. Depuis le début de la guerre, il y a eu une division parmi le peuple adventiste. Pendant toute la durée de la guerre, la majorité voulait voir les enseignements fondamentaux mis de côté par la force si nécessaire. Les autres demandaient que la sanctification du samedi, sabbat, leur soit accordée, même en ces temps de crise. La faction adverse a finalement entraîné la radiation de l'organisation de tous les partisans des principes originaux de leur foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait parmi le peuple adventiste une division. Au sujet de quoi? Certains voulaient voir les enseignements fondamentaux mis de côté, et d'autres vous demandaient que la sanctification du sabbat leur soit accordée même pendant ces temps de guerre. Et à cause de cela, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui étaient partisans des principes originaux de la foi adventiste ont été radiés. Et j'attire votre attention vers cette autre citation qui se trouve dans le Dresdner Neueste Nachrichten du 12 avril 1918. Pardonnez ma mauvaise prononciation allemande. Je lis. C'était ça s'appelle Dernière nouvelle de Dresde, qui est encore une fois une ville dans l'Allemagne de l'Est. Il est écrit le 12 avril 1918. Au début de la guerre, notre organisation s'est divisée en deux parties. Tandis que 98% de nos membres allèrent de l'avant, après avoir étudié la Bible, au motif que c'était notre devoir de conscience de défendre la patrie, avec les armes, et cela aussi le jour du sabbat. Et cette position décidée de la part des dirigeants réunis fut immédiatement transmise au ministère de la guerre. Cependant, 2% ne se sont pas soumis à cette décision des dirigeants et ont donc dû être radiés en raison de leur comportement anti-chrétien. Qu'est-ce qui s'est passé? Que disaient les dirigeants de l'Église adventiste en Allemagne? Ils disaient qu'ils avaient estimé que c'était leur devoir de conscience de défendre la patrie avec les armes et cela aussi le jour du sabbat. Et cette position qui était maintenant la leur, de la part des dirigeants, fut envoyée au ministère de la guerre en Allemagne, mais 2%, hein, nous avions lu, pas 1 sur 20, c'est-à-dire même pas 5%, ici nous lisons seulement 2% ne se sont pas soumis à cette décision des dirigeants, et donc quoi? Ont dû être radiés en raison de leur comportement anti-chrétien. 2%, nous avions lu. N'est-ce pas un accomplissement prophétique d'instruction pour un service chrétien effectif à la page 51, paragraphe 2? Vous ne trouverez rien d'autre. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. C'est précisément ce qui s'est passé. pas deux, seulement 2% en Allemagne étaient prêts. Et c'était une représentation de la condition des membres dans tout le monde. Seulement une infime partie était prête à mener ce travail de réforme profonde qui était annoncé par la servante du Seigneur, la messagère du Seigneur. Et donc, les membres fidèles aux principes originaux de la foi, comme l'autre lettre, l'autre article nous le disait, ont été radiés. Et cela, dès 1915. La Première Guerre mondiale a éclaté. Et dès 1915, ceux qui voulaient rester fidèles ont été radiés. J'attire votre attention maintenant vers cette déclaration très intéressante d'Ellet J. Wagner, l'un des deux messagers du message de 1888, dans ce livre « Glad Tidings, Bonne Nouvelle » à la page 159. Que disait cet autre ange d'Apocalypse chapitre 18 au sujet de la guerre ? Ça que nous voulons contempler maintenant. Il dit « Le chrétien pense à tout autre homme anglais, allemand, français, russe, turc, chinois ou africain, simplement comme un homme et donc un héritier possible de Dieu par Christ. Si cet autre homme, quelle que soit sa race ou sa nation, est aussi un chrétien, alors le lien devient mutuel et donc encore plus fort. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. C'est pour cette raison qu'il est impossible pour un chrétien de prendre part à la guerre. Il ne connaît aucune distinction de nationalité, mais il considère tous les hommes comme ses frères. Mais la raison principale pour laquelle il ne peut pas prendre part à la guerre, c'est que la vie de Christ est sa vie, car il est un avec Christ, et il serait tout aussi impossible pour lui de combattre qu'il le serait pour Christ de saisir une épée et de la brandir pour se défendre. Et deux chrétiens ne peuvent pas plus se battre l'un contre l'autre que Christ ne peut se battre contre lui-même. Voilà ce que le messager de 1888, l'un des deux, disait par rapport à la guerre. Est-ce que le chrétien peut faire la guerre? Non, parce que il considère chaque homme, anglais, allemand, français, russe, turc, chinois, africain, simplement comme un homme. Il ne le considère pas comme un ennemi, mais comme un homme. Et donc quoi? Comme un héritier possible de Dieu par Christ. Donc qu'est-ce que chaque homme pour le chrétien? Chaque homme est un héritier potentiel du salut de Dieu, de la vie éternelle, par Christ. Et donc est-ce que le chrétien peut prendre les armes et entrer en guerre? Une guerre dans laquelle il sera contraint de prendre la vie d'autres hommes qui, quoi qu'ils appartiennent à une autre nationalité, sont tout autant des héritiers possibles de Dieu par Christ. Vous comprenez le caractère fondamental de ce sujet? Mais ces hommes, ces dirigeants en Europe, qui ont envoyé ces lettres incompréhensibles au ministère de la guerre en Allemagne, ces hommes ne voyaient pas les choses de cette lumière, sous cette lumière. Vous comprenez? Ces hommes Nous allons le lire tout de suite. Comment est-ce que ces hommes raisonnaient vis-à-vis de cet enseignement incontestable, simple et pur de cet autre ange d'Apocalypse chapitre 18, qui était représenté par ces deux messagers, A.T. Jones et E.J. Wagoner. Et nous avons lu la déclaration d'E.J. Wagoner dans Bonne Nouvelle, où il disait cela. Mais que pensaient les dirigeants à ce sujet-là? Les dirigeants de l'Église adventiste en Europe. Voilà, je le lis, voilà la lettre qui a été écrite et adressée au ministère de la guerre à Berlin le 4 août 1914. Je lis. Au ministère de la guerre à Berlin, Charlottenburg, 4 août 1914. Très honorable Seigneur Général et Ministre de la guerre, puisque souvent notre point de vue concernant notre devoir envers le gouvernement et également notre position vis-à-vis du devoir militaire en général, et en particulier étant donné que notre refus de servir le samedi, le sabbat, en période de paix, est considéré comme fanatique, je prends donc la liberté, Votre Excellence, de vous présenter dans ce qui suit les principes des adventistes du septième jour allemand. Tout particulièrement aujourd'hui, dans la situation actuelle de guerre. Bien que nous soyons attachés aux principes fondamentaux des Saintes Écritures et que nous cherchions à répondre aux préceptes de la chrétienté en gardant le jour du repos, le samedi, que Dieu a établi au commencement, en nous efforçant de mettre tout travail de côté en ce jour-là, toutefois, en ces périodes de tension, nous nous sommes tous engagés à défendre la patrie. Et dans ces circonstances, nous prendrons également les armes le samedi, le sabbat. En cela, nous prenons position sur le passage de 1 Pierre, chapitre 2, versets 13 à 17. « Soyez donc soumis à toute institution humaine à cause du Seigneur, soit au roi, comme à celui qui est au-dessus des autres, soit au gouverneur, comme à ceux qui sont envoyés de sa part, pour punir ceux qui font le mal, craignez Dieu, honorez le roi. Nous avons communiqué ces résolutions à nos membres et leur avons également demandé d'organiser des réunions de prière afin de supplier Dieu qu'il donne la victoire aux forces allemandes. Si certains des conscrits adventistes se refusaient de servir le sabbat ou de prendre les armes, nous serions reconnaissants, Votre Excellence, si l'officier supérieur alors responsable avait connaissance de nos principes et de nos résolutions. Et par la présente, permettez-moi, Votre Excellence, de vous informer qu'à Friedensau, Magdeburg, notre sanatorium, notre école missionnaire et 250 tentes avec un médecin responsable et un certain nombre d'infirmiers confirmés qui seront en mesure de soigner presque 1400 soldats blessés seront mis à votre disposition. Avec la prière que Dieu donnera la victoire à cette juste cause, j'ai l'honneur, Votre Excellence, de demeurer, signé H. F. Schubert. Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai entendu? Vous aviez ici la déclaration de ce dirigeant de l'Église adventiste en Allemagne qui abandonnait les principes originaux de la foi adventiste. Pourquoi dis-je cela? Parce que il s'engageait. Je le lis. Toutefois, en ces périodes de tension, après avoir fait le récit des principes et des croyances adventistes, il s'en va renverser tout cela. Il dit une chose, mais il en fait une autre. Vous comprenez l'esprit? Toutefois, en ces périodes de tension, nous sommes tous engagés, disait-il, au nom des membres. Nous sommes tous engagés à défendre la patrie Et dans ces circonstances, nous prendrons également les armes le samedi. Qu'est-ce que le messager du Seigneur avait dit par rapport aux chrétiens et à la guerre? Il a dit que ne peut... Je le relis. Il a dit... C'est pour cette raison qu'il est impossible pour un chrétien de prendre part à la guerre. Il ne connaît aucune distinction de nationalité. Le chrétien ne connaît aucune distinction de nationalité. Mais il considère tous les hommes comme ses frères. Voilà l'esprit du chrétien. Et à cela, il ajoute, mais la raison principale pour laquelle il ne peut pas prendre part à la guerre, c'est que la vie de Christ est sa vie. Car il est un avec Christ. Et il serait tout aussi impossible pour lui de combattre qu'il le serait pour Christ de saisir une épée et de la brandir pour se défendre. Même avec une personne qui n'est pas chrétienne. Pourquoi? Parce que la vie de Christ a été versée pour chaque homme. Chaque homme est un héritier possible, potentiel, de la grâce de Dieu et de Dieu par Christ. Voilà l'esprit de l'évangile. Mais ces hommes, dont nous venons de lire les dires ici, ne pensaient pas ainsi. D'ailleurs, je le lis ici, où il disait « Je prends donc la liberté de vous présenter dans ce qui suit les principes des adventistes du septième jour allemand. » C'était allemand maintenant. Il y avait donc une distinction de nationalité. Alors que l'évangile dit qu'il n'y a plus ni juif ni grec, les dirigeants en Europe disaient « Voici les principes des adventistes allemands. » Je poursuis par cette autre lettre qui a été écrite le 5 mars 1915. Je lis. Au général commandant du 7e corps d'armée à Dresde. À Dresde. Dresde, 5 mars 1915. Relatif au numéro 856, article 3 du 23 février 1915, qui interdisait que des réunions adventistes soient tenues à Dresde, permet au sous-signé de donner l'explication suivante. Pendant de nombreuses années, les sous-signés ont clairement présenté aux responsables militaires, aussi bien oralement que par écrit, que le service militaire le samedi, le sabbat, en période de paix, est toujours demeuré une question propre à la conscience de l'individu. Mais quand la guerre a éclaté, les dirigeants de l'organisation adventiste en Allemagne ont, de leur propre chef, conseillé à leurs membres enrôlés dans tout le pays, face aux circonstances impérieuses et aux besoins de la patrie, de remplir les devoirs qui étaient les leurs en tant que citoyens, selon les Écritures, et de faire avec zèle le samedi, le sabbat, ce que d'autres combattants font le dimanche. Comme preuve, permettez que la copie ci-jointe du document serve au très estimé ministre de la guerre prussien, écrite le 4e jour d'août 1914. Cette proposition, déjà prise il y a plusieurs années et confirmée par les signatures ci-jointes pour la division européenne, signée L.R. Conradi, président. Pour l'Union de l'Allemagne de l'Est, siège à Berlin, signée H.F. Schubert. Pour l'association Saxion, siège Chemnitz, signée Peter Drinhaus. Président. Donc vous voyez, frères et sœurs, que tout cela a été indubitablement, indiscutablement signé par les dirigeants. Ils savaient précisément ce qu'ils étaient en train de faire. Et ils ont complètement, complètement apostasié. Ils ont conseillé à leurs membres enrôlés dans tout le pays, face aux circonstances impérieuses, de remplir les devoirs qui étaient les leurs en tant que citoyens, selon les Écritures, et de faire avec zèle le samedi ou sabbat ce que d'autres combattants font le dimanche. Il n'y avait plus de distinction. Ce n'était même plus possible de savoir qu'ils étaient adventistes. C'était à ce point. J'aimerais, pour changer de ton, lire ce qui avait été écrit dans Testimonies for the Church, au volume 1, à la page 361 et page 362. Donc ça, ça a été écrit par rapport à la guerre de sécession qui a eu lieu, si je ne m'abuse, en 1862 jusqu'à 1865. La guerre de sécession aux États-Unis d'Amérique, entre les confédérés et l'Union. Voilà ce que l'esprit de prophétie disait au sujet de quelle devait être la position du peuple de Dieu vis-à-vis de cette petite guerre, petite, comparée au gigantesque renversement politique de la Première Guerre mondiale. Je le lis. Il m'a été montré que le peuple de Dieu, qui est son trésor particulier, ne peut s'engager dans cette guerre troublante. Est-ce que le peuple de Dieu pouvait s'engager dans cette guerre troublante, la guerre de sécession aux États-Unis d'Amérique, en 1861-62? L'esprit de prophétie disait que le peuple de Dieu, qui est son trésor particulier, ne peut s'engager dans cette guerre troublante. Ne peut. Pas peut. Ne peut. Car ce serait que... Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que c'est juste un peu problématique? Car ce serait contraire à tous les principes de leur foi. Tout est annulé. Si le peuple de Dieu allait en guerre durant cette guerre de sécession, tout était annulé. Tous les principes de leur foi étaient abandonnés. Nous avions lu une citation dans La Tragédie des siècles parlant de personnes qui abandonnent leur position et rejoignent les rangs de l'opposition. D'ailleurs, c'est précisément cette citation que les frères du mouvement de réforme ont présentée après avoir cité cette déclaration de la lettre adressée au général commandant du 7e corps d'armée à Dresde, le 5 mars 1915. Ils ont cité que à l'époque, c'était évident pour tous les membres que cette déclaration montrait que les dirigeants avaient abandonné les premiers principes de la foi et avaient abandonné leur position et étaient en train de rejoindre les rangs de l'opposition. Voilà ce qui était en train de se tramer devant les yeux de tous. Rien n'était caché. C'était une terrible chute. Ils appelaient ça l'acte de Judas. Pourquoi ? Parce que cette lettre qui a été adressée au ministère de la guerre à Berlin, le 4 août 1914, les frères du mouvement de réforme ont écrit dans leur livre de l'histoire du mouvement de réforme adventiste du 7e jour, que c'était l'acte de Judas parce qu'ils ont envoyé cette lettre avant même que le sabbat soit devenu un test pour les adventistes qui s'étaient enrôlés dans les corps armés. Avant même, ils ont écrit que pour se couvrir, pour que les dirigeants, pour se couvrir de leur trahison, ont envoyé cette lettre pour forcer toutes les personnes qui n'avaient pas encore été éprouvées par le test du sabbat à céder, avant même que cela devienne une difficulté pour eux qui s'étaient déjà enrôlés dans l'armée. Vous comprenez l'esprit de ces personnes qui n'avaient plus rien de l'Esprit de Dieu en eux? Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas voulu recevoir la lumière de cet autre ange d'Apocalypse chapitre 18 qui avait commencé à briller en 1888, et au fur et à mesure de leur résistance, ils étaient devenus de plus en plus imperméables à l'Esprit de Dieu, de telle sorte qu'ils en sont arrivés au stade où ils ont pu faire cela, en Allemagne. Et ceux qui n'étaient pas en Allemagne, On fait quelque chose de tout aussi traître. Simplement, cela semblait moins grave parce qu'ils étaient moins exposés au danger d'une résistance à un gouvernement qui était violent. C'était le cas en Allemagne, mais ce n'était pas le cas dans d'autres pays. Mais une recherche assidue du sujet vous montrera que la Conférence générale aux États-Unis d'Amérique ont tout à fait approuvé la ligne de conduite des dirigeants en Allemagne, même au début et tout le long de la Première Guerre mondiale. Il n'y avait aucune dissonance dans leur discours. Si ce n'est, vous faites comme vous devez vis-à-vis et en relation avec les gouvernements sous lesquels vous êtes placés. Je lis, je continue de lire. Il m'a été montré que le peuple de Dieu, qui est son trésor particulier, ne peut s'engager dans cette guerre troublante, car ce serait contraire à tous les principes de leur foi. Contraire à tout aurait été abandonné si les adventistes du septième jour se seraient engagés dans la guerre de sécession de 1862. Tout aurait été abandonné. Serait contraire à tous les principes de leur foi. Dans l'armée, ils ne peuvent pas à la fois obéir à la vérité et aux exigences de leurs supérieurs. Ils ne peuvent pas faire les deux. Ils ne peuvent pas faire les deux. Il faut qu'ils obéissent à l'un ou à l'autre. Il faut qu'ils obéissent à Dieu ou au commandant. Ils violeraient continuellement leur conscience s'ils se trouvaient dans cette situation où ils s'étaient engagés dans l'armée. Ils seraient constamment en train de violer leur conscience. Parce que, je le lis, ce n'est pas écrit. Pourquoi ? Parce que leurs supérieurs seraient sans cesse en train de leur demander des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. De telle manière qu'il était écrit que ce serait contraire à tous les principes de leur foi de s'engager dans l'armée. Mais les dirigeants de l'Église adventiste en 1914 ont demandé précisément aux membres de faire ce qui les pousserait à abandonner tous les principes de leur foi. Parce que l'esprit de prophétie avait déclaré en 1862 ou 65, dans ces eaux-là, que toute personne qui s'engageait dans l'armée ferait quelque chose qui serait contraire à tous les principes de la foi adventiste. Les dirigeants ont demandé à leurs membres de faire précisément cela, qui équivaudrait à abandonner leur position et à rejoindre les rangs de l'opposition. Je continue. Ceux qui aiment les commandements de Dieu se conformeront à toutes les bonnes lois du pays. Mais si les exigences des dirigeants entrent en conflit avec les lois de Dieu, la seule question à régler est celle-ci. Obéirons-nous à Dieu ou à l'homme? À ce moment-là, ça devient la seule question à régler. Lorsque les exigences des dirigeants d'un pays entrent en conflit avec les lois de Dieu, alors la question doit être: obéirons-nous à Dieu ou à l'homme? On ne peut pas faire les deux. Pas dans ces circonstances-là. Pas quand les lois exigent, ou plutôt entrent en conflit avec les lois de Dieu. Lorsque les lois humaines entrent en conflit avec les lois de Dieu, alors il faut choisir l'un ou l'autre. Mais ces personnes-là qui représentaient la majorité, qui avaient pris pour habitude de professer Christ par leurs paroles, mais de servir à la fois Dieu et Mammon, ces personnes-là, quand la crise est arrivée, cette crise qui était annoncée, cette terrible tempête de persécution qui était annoncée par l'esprit de prophétie, à la fois dans la vision de la gare ferroviaire de Loma Linda et dans cette déclaration à la conférence générale en 1913, quand cette crise est arrivée, alors ceux qui étaient d'un double cœur ont plié, ont abandonné les principes fondamentaux et originaux de la foi adventiste. Ils ont tout abandonné. C'est ça, frères et sœurs, que j'ai envie que vous compreniez, que nous comprenions d'un commun accord, à la lumière de la parole de Dieu que nous sommes en train de lire. Que ces principes-là qui ont été abandonnés n'ont jamais été réadoptés. C'est ça qu'il faut comprendre. Parce que depuis, frères et sœurs, je fais une parenthèse, depuis cet acte de Judas de 4 août 1914, jamais il n'a été fait de pas en arrière pour revenir à ceux qui avaient été abandonnés. Parce que désormais, à partir de ce moment-là, et d'ailleurs c'était plus ou moins implicite dans la déclaration faite au ministère de la guerre, je crois, à Berlin, c'est que déjà la mentalité c'était de permettre aux membres de faire ce qu'ils voulaient en temps de paix. Simplement, dans le temps de guerre, ils ont contraint tous les membres de l'Église adventiste du septième jour, notamment en Allemagne et aussi dans d'autres pays environnants, à prendre les armes, et cela, même le jour du sabbat. Ils les ont contraints. Ils ont dit au ministère de la guerre à Berlin, au gouvernement allemand, ils ont dit, voilà, telle est notre résolution. Si quelqu'un fait profession d'être adventiste du septième jour, il est contraint de suivre cette résolution. Et d'ailleurs, nous demandons à tous les supérieurs de l'armée de connaître à la fois nos principes et nos résolutions. Parce qu'ils n'avaient pas simplement présenté les principes adventistes, ils avaient dit, ce sont nos principes, mais en temps de guerre, voilà nos résolutions. Donc ils disaient une chose, mais ils disaient, nous avons décidé d'abandonner nos principes pour la patrie. Vous comprenez? Voilà l'esprit qui régnait. Et voilà ce qui a causé ce criblage monumental, qui était annoncé par l'esprit de prophétie. Dans la vision de la gare ferroviaire de Linda, Sir White disait, je vois une terrible tempête et plus aucun adventiste ne sera vu. Pourquoi? Parce que, précisément pour cela, parce que la grande majorité se montrerait infidèle aux principes originaux de la foi, et seule une toute petite majorité, nous avons lu, combien? 2%! 2% en Allemagne sont restés fidèles et ont donc dû, pour employer les mots des dirigeants à cette époque, ont donc dû être radiés de l'organisation à cause de leur détermination à rester fidèles au véritable message. Donc une minorité est restée fidèle. Et qu'est-il arrivé à la majorité? Ils sont restés membres. Mais étaient-ils fidèles? Non, car nous avons vu qu'ils ont totalement apostasié en s'engageant à violer à la fois le quatrième et le sixième commandement. Parce que vous ne prenez pas les armes pour faire pour jouer. Vous prenez les armes pour être serviable au gouvernement et que des balles sortent de vos fusils. C'est ça le sens. Vous comprenez, frères et sœurs? Cela n'avait plus rien, plus aucune odeur d'adventiste du septième jour. C'était des personnes qui étaient complètement apostasiées. Complètement. Il n'y avait rien, plus rien du tout. Vous comprenez, frères et sœurs? C'est important que nous discernions cela. C'est important que nous ne laissions pas cela, que nous le passions, ce terrible développement réel et historique, sous le tapis, comme on dit en anglais. Non, il ne faut pas les mettre sous le tapis et oublier. Rien n'est oublié. On n'oublie pas. Parce que ces choses ont à voir avec les principes adventistes. On n'oublie pas. Et d'ailleurs, aujourd'hui même, cet esprit qui avait été adopté à partir de ce moment-là, à partir de cet acte de Judas, cet même esprit a persisté et s'est développé, s'est agrandi, s'est affirmé, s'est établi de telle manière qu'aujourd'hui, c'est la position officielle de l'Église de permettre à ses membres de s'enrôler dans l'armée, que ce soit en non-combattant, je ne sais pas ce que c'est le mot en français, mais en objecteur de conscience, je crois, ou en infirmier, ou même en infanterie. Et l'Église ne dira rien. Parce que c'est devenu la position officielle. Certes, nous dirons, oui, nous ne croyons pas que nous devrions enfreindre la loi et le sixième commandement. Ils disent une chose, mais ils font exactement l'opposé en permettant à leurs membres, sans aucune exhortation, sans aucun avertissement, sans aucune radiation, en autorisant à leurs membres de faire précisément ce qu'ils disent, ne pas croire qu'il est juste pour nous de faire. Voilà l'esprit, vous comprenez? Ça s'appelle l'apostasie de la vérité. C'est ça, frères et sœurs. Il faut digérer cela, cette réalité. Voilà ce qui s'est tramé au tournant fatidique de la Première Guerre mondiale. Je le relis, il m'a été montré que le peuple de Dieu, qui est son trésor particulier, ne peut s'engager dans cette guerre troublante, car ce serait contraire à tous les principes de leur foi. Tout, contraire à tout. Vous voyez à quel point c'est important? À tout est abandonné. Il n'y a plus rien quand vous faites cela. Il n'y avait plus rien quand ils ont fait cela. Ils ont abandonné leur position pour rejoindre les rangs de l'opposition. Qui ont-ils rejoint? Le gouvernement qui est entré en guerre pour faire précisément ce que l'Évangile interdit, à savoir ôter la vie d'un homme pour qui Christ est mort. Vous comprenez, frères et sœurs, dès que vous touchez à ce sujet, vous êtes en train de démolir tout l'Évangile. Et donc, lorsque nous louons des hommes qui font ces choses-là, quoi que nous disions que nous sommes contre la guerre, si nous louons des hommes qui ont quoi que ce soit à faire avec ce sujet-là, qui touchent à ces choses-là, à la guerre, si nous louons ces hommes-là, nous sommes en train de louer des personnes qui démolissent l'Évangile de Jésus-Christ. Voilà à quel point c'est sérieux. Ce n'est pas juste une question de personnes qui, bon, ils ont choisi de violer le sabbat, de violer le sixième commandement, c'est leur problème. Ce n'est pas leur problème, c'est notre problème. Vous comprenez? Les principes originaux ont été remis en question à ce segment de l'histoire du peuple de Dieu. Je continue. Celui qui a la loi de Dieu écrite en son cœur obéira à Dieu plutôt qu'aux hommes et préférera désobéir à tous les hommes que de s'écarter un seul instant du commandement de Dieu. Combien on fait cela à cette époque? Très très peu, n'est-ce pas? Nous avons lu 2%. 2% étaient prêts. 2% avaient la loi de Dieu en leur cœur. Seulement 2%, parce que les autres n'ont pas fait cela, nous avons lu. Comme d'habitude, ces citations seront fournies, bien sûr. Celui qui a la loi de Dieu écrite en son cœur, pas dans sa tête, en son cœur, en son fort intérieur, dans son lobe frontal, là où il prend des décisions, dans ses affections, celui qui a la loi de Dieu à cet endroit-là, obéira à Dieu plutôt qu'aux hommes et préférera désobéir à tous les hommes que de s'écarter un seul instant du commandement de Dieu. Et donc ces hommes fidèles qui formèrent ensuite le mouvement de réforme des adventistes du septième jour, qui menèrent ce travail de réforme profonde auquel le Seigneur avait appelé en 1913, ces hommes-là avaient la loi de Dieu écrite en leur cœur, pas dans leur intellect, dans leur cœur, de telle sorte qu'ils étaient prêts à rester fidèles à Dieu et de désobéir à tous les hommes, plutôt que d'obéir aux hommes dont les lois étaient en conflit avec la loi de Dieu et à s'écarter un seul instant du commandement de Dieu. Un seul instant. Voilà l'esprit qui animait ces hommes. Maintenant, frères et sœurs, je vais vous poser la question. Ces hommes étaient-ils des fanatiques? Ces hommes qui ont décidé de rester fidèles à la parole de Dieu, étaient-ils des fanatiques? Étaient-ils simplement des indépendants? Vous comprenez que ce langage, c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. Parce que lorsque vous connaissez le sujet tel qu'il est réellement, tel que nous l'avons exploré maintenant pendant de nombreux sabbats, alors vous ne dites pas cela. Vous ne dites pas cela. Parce que vous discernez que ces hommes étaient des hommes de Dieu, qui marchaient avec Dieu, qui avaient le courage de Dieu, à l'opposition de ces autres hommes, qui avaient perdu l'image de Dieu, perdu la force, le courage de Jésus, qui avait perdu la fermeté d'être fidèle à la vérité, qui avait perdu les caractéristiques de Christ, qui avait perdu la fidélité des vrais adventistes. En fait, vous voyez le contraste immense, gigantesque entre ces différents types de personnes. Alors vous ne dites plus ces choses-là à diffamer ceux qui formèrent au début le mouvement de réforme des adventistes du septième jour. Vous ne direz pas cela. Certes, aujourd'hui, c'est une autre question. C'est une autre histoire. Nous ne parlons pas de cela. Nous sommes en train d'ici d'aborder l'histoire, pas à pas. Et ces hommes-là, ces 2% qui ont dû être radiés à cause de leur comportement antichrétien, ces hommes, nous voyons, restèrent fidèles aux principes originaux. Et ces hommes étaient animés par le même esprit qui animait le serviteur, le messager de 1888, qui disait que le chrétien ne fera pas la guerre contre un autre homme. D'une part, parce que c'est un homme qui est un héritier possible de Dieu par Christ, et d'autre part, parce que si en plus l'homme qui l'affronte est un chrétien, alors il ne peut pas combattre cet homme de la même manière que Christ ne peut pas se combattre lui-même. Vous comprenez? Que ce soit une personne qui est sans Dieu ou avec Dieu, ça ne fait pas de différence dans le sens où le chrétien ne peut pas prendre les armes, sans parler d'aller s'enrôler dans l'armée, ce qui le contraindra à violer le sabbat, le quatrième commandement. Vous comprenez? Ces choses sont d'une importance capitale, frères et sœurs. J'espère que nous allons discerner. Parce que si vous commencez à discerner ces aspects-là, qui sont primordiaux, alors d'autres choses vont s'élargir dans votre compréhension de la vérité. Parce que lorsque nous parlons de vérité aujourd'hui, parmi les peuples, le peuple adventiste, parmi ceux qui croient au message des trois anges et du troisième ange, lorsque nous parlons de vérité présente, en réalité, frères et sœurs, en réalité, nous ne comprenons pas de quoi nous parlons. Parce que nous n'avons pas une compréhension historique des développements prophétiques et historiques du criblage qui avait été annoncé et qui s'est produit précisément dans cette date à laquelle nous pouvions nous attendre qu'il aurait lieu. Et donc, lorsque nous parlons de vérité présente, parlons du troisième ange, etc., etc., en réalité, frères et sœurs, nous avons plusieurs trains de retard sur la compréhension prophétique que nous devrions avoir et qui nous permettrait de savoir justement où nous nous trouvons dans l'accomplissement des prophéties. Et alors, lorsque nous aurons cette compréhension telle que j'ai cherché par la grâce de Dieu à communiquer, un voile sautera devant nos yeux et nous traverserons des expériences que la grande majorité des chrétiens et des adventistes aujourd'hui ne connaissent pas. Des expériences qui vous mènent dans l'angoisse, des expériences d'une angoisse telle que ces frères du mouvement de réforme ont traversé. Par la grâce de Dieu, un autre jour, j'aimerais vous partager ce que ces hommes ont traversé, ce que ces hommes ont vécu, ce que ces hommes ont souffert, parce qu'ils sont restés fidèles à cette vérité qui aujourd'hui est inconnue parmi les adventistes. Parce que nous parlons de vérité, en réalité, nous ne comprenons pas de quoi il s'agit. Qu'est-ce que cela veut dire de souffrir pour rester fidèle? La grande majorité des cas, nous sommes ignorants, frères et sœurs. Nous sommes ignorants. C'est ce que j'ai constaté à travers les années. La grande majorité des adventistes ne comprennent pas les messages. Comprennent pas. Parce que s'ils comprenaient, alors ils souffreraient. Ils souffreraient, oui. Ils endureraient de telles expériences qui ne seraient pas aussi suffisantes que la majorité d'entre eux le sont. Parce que l'épreuve, la réelle épreuve que nous traversons lorsque nous sommes sous la tutelle de la pleine vérité, la réelle épreuve, cette épreuve-là, et toute autre de ces toutes petites minuscules épreuves que beaucoup pensent être gigantesques lorsqu'il leur arrive des tracas sous le parapluie d'une vérité imparfaite et incomplète. Je dis cela parce que le diable ne fait pas la guerre à ceux qui n'ont pas compris. Le diable ne fait la guerre que à ceux qui marchent pas à pas, très très proches avec le Seigneur Jésus. Comme c'est écrit dans Matthieu chapitre 25, ce fameux cortège nuptial qui est si proche de Jésus que vous n'y discernez pas leurs yeux, vous entendez juste une voix. Matthieu chapitre 25. Et que dit ce cortège? Il dit, l'époux vient, n'est-ce pas? Réveillez-vous. Voilà ce qu'était, voilà, ces hommes étaient une ébauche, un début de cela. Ces hommes, ce nouveau mouvement que la servante, la messagère du Seigneur avait vu en vision, dans les songes de la nuit, cet autre mouvement, c'était cet autre ange d'Apocalypse chapitre 18, qui finirait par éclairer la terre entière de sa gloire. Quelle gloire? La gloire du caractère de Dieu. Quel genre de caractère? Un caractère qui est fidèle. Un caractère qui est fidèle. Oui, bien sûr, il est amour, mais votre amour n'a aucune valeur si ce n'est pas un amour qui est prêt à mourir pour la vérité. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, si mon amour n'est pas étroitement lié à la pure vérité, la vérité immaculée, alors mon amour, frères et sœurs, c'est un peu une farce. J'aimerais que nous continuions. Donc nous avons lu que le peuple de Dieu ne peut s'engager, il était écrit dans cette guerre, la guerre de sécession, mais c'est valable pour toutes les autres guerres. Cela va de soi. Parce que d'ailleurs, après il est écrit que dans l'armée, voilà, vous avez vu, vous voyez que c'est vraiment un cas général en réalité. Il est écrit, dans l'armée, ils, le peuple de Dieu, ne peuvent pas à la fois obéir à la vérité et aux exigences de leurs supérieurs. Ils ne peuvent pas faire les deux. Dans l'armée, c'est toujours comme ça. Toujours comme ça. Il n'y a pas d'exception. Pas zéro. Pas d'exception. Ils ne peuvent pas à la fois obéir à la vérité, qui est Jésus, et aux exigences de leurs supérieurs. Ils violeraient continuellement leur conscience. Et j'attire votre attention vers la première position des adventistes du septième jour sur le sujet de la guerre. Leur première confession sur ce sujet-là. Vous la trouvez dans la Review and Herald du 23 mai 1865. Vous pouvez la retrouver si vous voulez. Je lis. Voilà ce que les adventistes ont déclaré à la fin de cette guerre de sécession. Donc ils avaient été confrontés à la nécessité d'établir une sorte de résolution commune à tous après cette terrible crise. Et donc après que la crise de la guerre de sécession soit passée, ils ont dit maintenant il faut qu'on écrive quelque chose, parce que si ça réarrive, il faut absolument que nous ayons quelque chose à fournir pour tous nos membres, pour donner une réponse sur cette conscription, parce que c'est terrible. Si vous n'avez rien à dire, vous n'avez aucune excuse. Et donc, pour donner une réelle justification fondée sur la parole de Dieu, ils ont écrit ceci. Écoutez-le. Il a été décidé que nous reconnaissons le gouvernement civil comme étant ordonné de Dieu, afin que l'ordre, la justice et la paix puissent être préservés dans le pays, et afin que le peuple de Dieu puisse mener une vie calme et paisible en toute piété et en toute honnêteté. En accord avec ce fait, nous reconnaissons qu'il est juste de rendre le tribut, l'honneur et le respect au pouvoir civil tel que cela nous est prescrit dans le Nouveau Testament. Ainsi, tandis que nous rendons de bon cœur à César ce que les Écritures nous montrent être à lui, nous sommes contraints de refuser toute participation aux actes de guerre et aux effusions de sang, ces derniers étant incompatibles avec les devoirs que le Maître nous a prescrits à l'égard de nos ennemis et de toute l'humanité. Ici, il y avait une allusion à Matthieu chapitre 5, verset 44. J'aimerais que nous nous tournions vers cela. Matthieu chapitre 5, verset 44. Quelle était ces devoirs que le Maître nous a prescrits à l'égard de nos ennemis et de toute la vérité, et que nous serions contraints de contredire si nous participions aux actes de guerre. Lisons-le, Matthieu chapitre 5, verset 44. « Mais moi, je vous dis, dit Jésus, aimez vos ennemis. » Est-ce qu'il a dit, prenez des armes contre vos ennemis? Il n'a pas dit ça, Jésus. Il n'a pas dit ça. Qu'a-t-il dit? Si quelqu'un te frappe sur la joue, tu lui tends l'autre. N'est-ce pas les paroles du Sauveur? Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent. Verset 39. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Mais si quelqu'un te frappe à la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Vous voyez que la guerre ne rentre même pas dans ce schéma. Absolument pas. Rien du tout. Rien du tout. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ils vous maudissent. Qu'allez-vous faire? Allez-vous répondre? Allez-vous vous lancer dans des représailles? Pas si vous êtes chrétien. Pas si vous êtes chrétien. Encore moins si vous êtes adventiste. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Ils vous haïssent. Qu'allez-vous faire? Allez-vous les haïr? Aimez-les. Aimez-les jusqu'à ce que vous en mouriez. Faites-leur du bien. Faites-leur du bien. Priez pour ceux qui vous outragent, qui vous persécutent. Ils vous outragent, ils vous persécutent, ils vous font du mal, ils vous font souffrir. Votre cœur en est brisé. Qu'allez-vous leur faire? Priez pour eux. Tout votre cœur, priez jusqu'à ce que vous n'ayez plus de force. Voilà. Voilà, frères et sœurs, l'Esprit de Christ. Voilà le message de l'Évangile. Voilà la lumière de cet ange qui doit éclairer la terre de sa gloire. Cet autre ange. Et donc, dans la naissance du mouvement de réforme, nous voyons émerger cet autre ange avec une grande puissance et une grande gloire. Mais ce n'est pas la puissance que nous pourrions nous attendre de voir. Ce n'est pas la gloire que nous serions enclins à attendre. C'est la gloire de Dieu, la puissance du caractère de Jésus-Christ. Et cette puissance, nulle puissance terrestre ne peut y résister. Et les cœurs les plus endurcis en sont adoucis. Et les grands persécuteurs en sont transformés. Quand bien même ils n'en sont pas convertis, ils en sont contraints d'admettre que cet homme, c'est un chrétien. Voilà quel est cet ange en réalité? Ces hommes du mouvement de réforme ont manifesté l'émergence concrète de ce peuple qui était né sous la lumière, le début de la lumière de cet ange à travers le message de 1888. C'était, ils émergeaient. Cela devenait une fleur qui éclot. Il y avait un bourgeon, mais à la guerre, Cette fleur a éclos. Et sa beauté, son odeur a commencé à se répandre. C'était l'odeur, la beauté du caractère de Dieu. Un caractère qui est noble, un caractère qui est ferme, jusqu'à la mort s'il le faut. J'aimerais que nous puissions terminer et clore notre méditation par cette citation de l'Esprit de prophétie, encore une fois, dans Testimonies for the Church, volume 5, page 136, paragraphes 1 et 2. Et je lis. Cette déclaration a été écrite à peu près en 1882. Bientôt, le peuple de Dieu sera testé par des épreuves ardentes. Et la grande proportion de ceux qui paraissent maintenant être sincères et vrai s'avérera être du métal de base. Au lieu d'être fortifié et confirmé par l'opposition, les menaces et l'abus, ils se rangeront lâchement du côté des opposants. Prendre la défense de la vérité et de la justice quand la majorité nous abandonne, livrer les batailles du Seigneur quand les champions sont rares, ce sera notre épreuve. Quelle sera notre épreuve qui est anticipée ici par la servante du Seigneur, par le témoignage de Jésus? De prendre la défense de la vérité et de la justice quand la majorité nous abandonne. N'est-ce pas ce que ses frères ont fait du mouvement de réforme? Précisément. Précisément, frères et sœurs. Et quand vous commencez à voir ces lunettes justes, toutes les déclarations de l'Esprit de prophétie commencent à faire sens. Et vous cesserez de mettre dans l'avenir quelque chose qui s'est produit en 1914 et suivant, dans les années qui ont suivi après cela. Certes, il y a des choses auxquelles nous attendons encore. Il y a des choses, en effet, où ces déclarations trouveront davantage leur accomplissement. Mais le premier accomplissement, le plus complet, a eu lieu à ce moment-là. Et ensuite, ça va continuer. Cet accomplissement va encore se développer et va encore, pour ainsi dire, exploser lorsque les lois du dimanche sont réanimées. Elles ne vont pas être créées, les lois du dimanche existent depuis 1892 à peu près, 93. Alonzo Trevor Jones, l'un des deux messagers de 1888, était allé faire face aux personnes du gouvernement aux États-Unis d'Amérique lorsqu'il y avait cette fameuse loi Blair qui suggérait la nécessité d'une loi imposant la fermeture de tous les magasins le dimanche. Ça avait déjà commencé, vous savez. Donc aujourd'hui, ne nous attendons pas, ça va être très, très, très rapide. Donc ne nous attendons pas à un cheminement très, très long vers les lois du dimanche. Non, ça va être très rapide, trop même. La raison pour laquelle il nous faut prier que le Seigneur veuille bien retenir les quatre vents, parce que le peuple de Dieu n'est pas prêt. Mais une partie de cette préparation que le Seigneur désire nous donner, c'est d'arriver à comprendre que ces déclarations-là, notamment celle-ci, a commencé à trouver son accomplissement lorsque la Première Guerre mondiale a éclaté. Prendre la défense de la vérité et de la justice quand la majorité nous abandonne, livrer les batailles du Seigneur quand les champions sont rares. Ils sont rares, c'est très dur de les trouver, ces champions de Dieu, ces véritables croyants, ces vrais adventistes, ils sont si rares. Eh bien, livrer les batailles du Seigneur lorsque les champions sont rares, telle sera notre épreuve. Il nous faudra être fortifiés et confirmés par la position, par les menaces et l'abus, plutôt que de nous ranger lâchement du côté des opposants comme les dirigeants l'ont fait au tournant de la Première Guerre mondiale. Et donc, frères et sœurs, j'aimerais que nous tournions vers cette lecture biblique de Ésaïe chapitre 66, qui résume très très bien ce que nous avons exploré aujourd'hui, et qui attire notre attention vers la vraie valeur de l'âme et ce que Dieu pense de ces événements qui ont eu lieu lors de l'émergence de cet autre ange d'Apocalypse, chapitre 18. Ésaïe, chapitre 66, versets 1 et 2 et verset 5. « Ainsi a dit l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Quel lieu sera celui de mon repos? Car toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ces choses existent par elles, dit l'Éternel. Et voici à qui je regarde, à celui qui est humble, qui a l'esprit abattu et qui tremble à ma parole. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui tremblez à sa parole, vos frères qui vous haïssent et qui vous rejettent à cause de mon nom, ont dit que l'Éternel montre sa gloire. Il sera donc vu à votre joie, mais eux seront honteux. » Donc le Seigneur dit, vous tremblez à sa parole et vos frères vous ont rejeté. Hein? Vous avez de la valeur à mes yeux, vous êtes les personnes à qui je regarde, mais vos frères vous ont haï et vous ont rejeté, soi-disant à cause de mon nom. Ils ont prétendu faire cela pour l'honneur de mon nom, pour l'honneur de ma cause, pour mon Église. Mais, que dit Dieu? Vous tremblez ma parole, vous avez souffert cela. Il sera donc vu, le Seigneur, à votre joie, mais eux seront honteux. Ils auront honte. Au final, ils auront honte. Et tous ceux qui agiront et qui suivront leurs pas auront honte de leurs faits et gestes. Auront honte d'avoir haï et d'avoir rejeté le peuple de Dieu. Puisse le Seigneur nous encourager par ces choses et nous donner une vision claire de l'avenir, à la lumière des choses que nous savons s'être produites dans le passé, en accomplissement clair et indiscutable des déclarations prophétiques antérieures à ces accomplissements. Puisse le Seigneur accompagner sa parole et encourager nos cœurs et nous garder en vie pour que nous puissions poursuivre cette étude passionnante des agissements du Seigneur et des accomplissements prophétiques et de l'émergence de cet autre mouvement, de cet autre ange qui ensuite est suivi par un autre mouvement, celui d'Apocalypse chapitre 18, verset 4. Puisse le Seigneur préparer nos esprits et fortifier nos cœurs et notre intellect pour être capables de discerner cette vérité, de la vérifier et de l'épouser. Et alors nous aurons de la force pour livrer les batailles du Seigneur lorsque les champions sont rares, puisque le Seigneur nous accompagner dans cela, c'est ma prière, que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.